RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a dévasté Haïti. Près de 200 000 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe. 300 000 autres ont été blessées. 1,5 million d'Haïtiens se sont retrouvés dans les rues, sans aucun abri. Aujourd'hui, 5 ans après le drame, Haïti est en pleine crise politique. Les élections législatives et municipales ne se sont pas tenues à temps. Et le mandat officiel de la plupart des élus haïtiens arrive à son terme. Alors que le président Michel Martelly et les parlementaires tentaient ces dernières semaines de trouver une issue à cette crise. De plus en plus d'Haïtiens étaient dans les rues pour manifester leur colère contre cette classe politique qui, selon eux, ne fait rien pour améliorer leurs conditions de vie. Voyage en Haïti, les citoyens parlent de la crise politique. Grand reportage signé Stéphanie Schuller. Stéphanie que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
C'est ici que les filles et les fils de la terre d'Haïti viennent se recueillir en quête d'un message d'unité historique, de peuple et du choix d'un destin de liberté toujours nouvelles à conquérir.
C'est par ces mots, gravés dans une plaque commémorative, que le visiteur est accueilli à la citadelle. Ce fort a été construit en 1806 par l'un des pères de la Révolution haïtienne, le roi Henri Christophe, pour défendre la toute jeune République d'Haïti contre un éventuel retour de l'armée française. L'impressionnante bâtisse s'élève à plus de 900 mètres d'altitude dans les montagnes qui surplombent le nord du pays.
Moi, je m'appelle Dorsin Thomas.
Je m'appelle Thomas Dorsin, surveillant à la citadelle.
Surveillant la citadelle.
Pour chaque Haïtien, la citadelle est un symbole patriotique très fort. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'elle représente pour vous?
Bon, vous, citadelle-là, c'est plus grande fierté.
La citadelle, c'est notre plus grande fierté. On parle de la citadelle comme de la 8e merveille du monde. La citadelle, c'est le symbole de l'indépendance de notre pays.
D'indépendance pour pays, nous.
Souhaitez-nous un bon voyage. J'espère à la prochaine.
À la prochaine fois. Merci pour tout. À bientôt. On va descendre maintenant en fait de la citadelle vers la deuxième plus grande ville d'Haïti, à Cap-Haïtien, qui a connu ces dernières semaines des très grandes manifestations contre le gouvernement de Michel Martelly et de son premier ministre Laurent Lamothe, qui depuis a dû démissionner avec l'ensemble de son gouvernement. D'ailleurs, Cap-Haïtien, c'est une ville historique parce que c'est de là et de toute cette région du nord d'Haïti qu'est partie la révolution haïtienne.
Là, nous sommes au centre historique de la ville du Cap-Haïtien, c'est-à-dire l'espace où eurent lieu les événements historiques les plus importants à l'époque de la révolution de Saint-Domingue.
Ange Lobel, historien et figure politique de Cap-Haïtien, membre de Fanmi Lavalas, le parti politique de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide.
La ville du Cap, c'est le réservoir de l'histoire des peuples de l'Amérique latine. Imaginez, en 1793, des anciens esclaves sont acceptés comme des hommes libres. Après leur révolte, la France est contrainte de les accepter comme des hommes libres. C'est un chapitre de l'histoire universelle.
De toute cette histoire que vous nous décrivez, est-ce qu'on retrouve des traces dans la mentalité de la population de Cap-Haïtien?
Je dirais oui. Le Capois croit qu'il est l'acteur principal de la libération nationale. Il y a une conscience historique dans la cité du Cap, et qui se traduit aussi par une conscience politique. Les Capois sont très politisés.
Moi, je m'appelle Christelle Casimir, étudiante en sciences infirmières. Nous, les jeunes et les moins jeunes, ils se mobilisent à travers les manifestations publiques. Ils cherchent quelque chose, une réponse aux mains des dirigeants, mais malheureusement, ça tarde encore.
Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que les gens cherchent?
Je cherche la paix politique. Je cherche la stabilité, que nous pouvons avoir un gouvernement avec un président, un ministre qui peuvent vraiment assumer leurs responsabilités.
Comment ça se fait qu'il y a des gens qui se sont peut-être mal compris ici?
Ce n'est pas précisément le rôle du président, mais de tous les responsables. Et c'est à la population de collaborer avec lui. Il ne pourra jamais répondre aux millions de personnes qui sont dans les rues. Donc, nous devons l'aider pour qu'il puisse nous aider lui aussi.
Aujourd'hui, en fait, vous rêvez de quoi ?
Que mon pays puisse renaître comme il a été dans le passé. Nos ancêtres, le cœur qu'ils ont donné à nous donner la liberté, donc j'espère pouvoir le retrouver à travers chaque citoyen et à travers mon gouvernement.
Nous n'avons pas encore une culture politique basée sur la tolérance qui accepte qu'un gouvernement puisse terminer son mandat. La stabilité politique est très rare en Haïti. Rares sont les présidents qui ont eu la chance de terminer leur mandat. Moi, ce que je pense, il nous faut des partis politiques forts. Nous avons beaucoup de partis politiques en Haïti, mais des partis politiques qui n'ont pas une pratique de pouvoir.
Aujourd'hui, il y a combien de partis politiques ? Vous avez une idée à peu près ?
C'est une centaine. C'est triste de le dire.
Nous nous trouvons devant le parc industriel de Caracol. C'était le projet phare du gouvernement Michel Martelly et Laurent Lamotte, censé relancer l'économie, notamment après le tremblement de terre. Un parc industriel censé employer jusqu'à 60 000 salariés, surtout des gens qui travaillent dans le textile. Aujourd'hui, 2 ans et demi après l'ouverture de ce parc industriel, à peu près 4 000 personnes sont employées ici. Et nous sommes là entourés de beaucoup de monde venu chercher du travail justement ici.
Je m'appelle Yveline Pierre, j'habite à Quartier Morin. Je suis venue ici dans l'espoir de trouver un emploi, parce que je sais qu'ici, je peux en trouver.
Aujourd'hui, il y a une crise politique en Haïti. Il y a des élections qui sont en retard. Peut-être le 12 janvier, vous n'aurez plus de parlement. Vous, ici, dans le Nord, ça vous inspire quoi tout ça, en fait, quand vous voyez ce qui se passe à Port-au-Prince ?
J'en paye hier, un peu le monde, ça qui passe.
La plupart des gens ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe. À mon avis, les deux groupes, le président et les parlementaires, ne veulent pas céder un pouce et ne veulent pas non plus trouver une entente. Ils ne défendent que leurs propres intérêts. Leur attitude va nous conduire vers une situation catastrophique à partir du lundi 12 janvier.
À cause des intérêts personnels, là, les parlementaires, nous, on a une situation qui est très grave. À partir de lundi.
Mais à Caracol, la plupart des habitants sont de fervents défenseurs du président Michel Martelly, à l'instar de Samuel Florville et Ulrich Darius.
Il y a beaucoup de changements au sein de la communauté parce que à cause du parc industriel de Caracol, nous avons obtenu la lumière, qui est l'électricité, le développement de la route. C'est une transformation, c'est un changement radical pour la société haïtienne. Et c'est un bon gouvernement, le gouvernement des matériels.
À 100%, moi, satisfait par Jam Gebagaïsa autrefois.
Je suis satisfait à 100% de mon gouvernement. Et si je pouvais faire un vœu, ce serait d'accorder un peu plus de temps au président pour qu'il puisse continuer à réaliser d'autres projets. Il tient ses promesses. Parce que Martelly, c'est Dieu. Après Dieu, c'est Martelly, notre Dieu.
Après Dieu, en l'air, Martelly, c'est Dieu lié pour nous-mêmes.
Nous avons continué notre route en direction du sud, direction les Gonaïves, et nous nous sommes arrêtés dans la petite ville de Concoc, à côté de la rivière, où plusieurs femmes sont en train de laver le linge. C'est ici que nous avons rencontré Valencia Jean.
Je suis en train de laver le linge à la main parce que je n'ai pas de machine à laver. Je vis encore avec ma mère et mon père. Je voudrais bien avoir des enfants, mais pour l'instant, je pense surtout à mon avenir.
Pendant qu'on était en train de discuter avec Valencia, évidemment d'autres gens sont venus nous voir, et notamment deux jeunes hommes.
Je suis Kindi Kaseus. Mon pays est dans une drôle de situation. Kankok est une section communale de la ville de Limbé. Mais nous n'avons pas de représentants, ni du gouvernement, ni du conseil des assemblées de la section communale. Le problème, c'est que tout ce que les hommes politiques veulent, c'est obtenir nos voix lors des élections, et après on ne les voit plus.
Je m'appelle Benji, j'ai 21 ans. Si j'étais dans un pays développé, j'aurais déjà un emploi, parce que j'ai la force pour ça, et du courage. Je ne suis pas paresseux. Un député est censé faire des lois au Parlement et proposer des projets pour le développement de sa circonscription. Mais chez nous, les députés ne pensent qu'à se remplir les poches.
Si on prend l'exemple de notre député qui est resté à Port-au-Prince, quand il revient de notre communauté à bord de sa voiture, il roule à vive allure. La zone est délaissée par les autorités et on voit bien que notre député ne voulait que notre vote. S'il pouvait nous écraser avec sa voiture, il n'hésiterait pas. Après avoir voté, on exige au moins une certaine présence. On ne leur demande pas de l'argent, mais le développement de notre zone. On n'a pas d'école ici, ni de centre de santé.
Nous avons quitté le petit village de Kangkok et la magnifique verdure du département du Nord. Et là, nous nous trouvons maintenant dans le département de l'Artibonite, à l'ouest d'Haïti. Ici, les mornes sont arides, c'est très sec. Il y a beaucoup de poussière sur les routes aussi. Nous nous dirigeons actuellement vers la capitale du département de l'Artibonite, les Gonaïves.
Coucou. Bonjour Patrick Oumouyer. Ça va?
Oui,
très bien.
Patrick Chérilus, nous nous sommes rencontrés en 2009 pour la première fois ici au Gonaïves après le passage de plusieurs ouragans. Et ensuite, on s'est recroisés en 2010 alors que les Gonaïves accueillaient énormément de sinistrés du tremblement de terre. Aujourd'hui, on est 5 ans plus tard. Votre ville a connu de grandes manifestations. Qu'est-ce qui pousse selon vous les gens à gagner les rues?
Oui, les difficultés économiques sont pour beaucoup dans ce genre de manifestations. Également la situation politique, parce que c'est un pays qui est un petit peu bloqué depuis plus de 3 ans, parce qu'on devrait organiser des élections tous les 2 ans. On devrait organiser des élections pour les municipalités depuis 2011. Et aujourd'hui, nous sommes en 2015. Donc, puisqu'il n'y a eu aucune élection qui n'est organisée jusqu'à date, donc c'est un pays qui est un petit peu figé. Donc, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de tourisme. Cela pose pas mal de problèmes. Lorsqu'on n'a pas organisé des élections à temps, c'est la responsabilité directe du pouvoir exécutif, en particulier du président de la République. Le gouvernement a banalisé les institutions. Le gouvernement pense qu'on peut diriger un pays à partir des slogans, alors qu'on dirige un pays à partir des programmes.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, professeur. Bonjour.
Ah, parfait.
Je suis Pierre Boisduin, je suis professeur de management d'économie à l'Université publique et à l'Université Notre-Dame d'Haïti au Gonaïves. Haïti présente les cicatrices d'un État fragile. Donc, lorsque vous avez une situation économique aussi difficile, et ajouté à des crises politiques, vous avez une situation explosive. Et le pays semble se diriger vers un chaos.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aujourd'hui une crise électorale, une crise politique, une crise institutionnelle? C'est quoi la nature de cette crise?
Malheureusement, la crise est d'abord humaine. C'est-à-dire qu'il faut des hommes pour diriger un pays. Le débat politique, il est extrêmement personnel. Moi, j'ai l'impression que le mot consensus, grandeur d'âme, ce sont deux mots qui nous font gravement défaut. On peut disputer, on peut ne pas être d'accord, mais on doit s'entendre sur quelque chose pour faire avancer ce pays.
Il y a une sorte de phénomène de répétition des crises aussi, malheureusement.
Non, on a trop de crises. Une crise, par étymologie, c'est quelque chose de temporaire. Mais si cette crise devient chronique, endémique, et ce n'est plus une crise, ça tend à devenir un état d'âme.
À la prochaine, Patrick.
Bon travail.
Merci. On est reparti, hein? On va où maintenant?
Là, on va vers Ponsondé, en passant par l'Esther, où il y a pas mal de rizières.
On y va alors.
Je suis Luc Nier, Jean-Pierre Domifil.
Est-ce que vous avez l'impression que vous, ici, les agriculteurs, les paysans de cette zone, vous êtes écoutés par les hommes politiques à Port-au-Prince?
Ils ne sont pas vraiment pour le pays. À chaque fois,
à chaque crise politique, le pays est toujours perdant et les paysans aussi. Il fut un temps sous la présidence de Jean-Claude Duvalier, il y avait l'ODVA, l'Organisation pour le Développement de l'Artibonite. Elle nous a toujours soutenus. Après le départ de Jean-Claude Duvalier, le président Préval accordait lui aussi une certaine importance à notre secteur. Mais depuis, il n'y a plus rien.
Vous regrettez la période de Jean-Claude Duvalier aujourd'hui ou vous êtes content d'être en démocratie?
Pour la démocratie, cela n'existait pas vraiment en Haïti. Parce que la justice n'y règne pas.
Est-ce qu'il faut avoir une sorte de nouvelle classe politique pour sortir Haïti de cette situation?
Non, ça a toujours été.
Tout le monde réclame toujours une nouvelle classe politique. Mais une telle classe n'a jamais existé pour nous, les paysans.
Ça n'a jamais existé pour nous, les paysans.
Pourquoi on s'est arrêté?
Là, on est en train d'ajouter de l'air dans le pneu.
Ah oui.
C'est bon.
Nous sommes ici à Canaan, à une quinzaine de kilomètres au nord de Port-au-Prince. Il n'y a pas d'arbres. Les maisons ici se trouvent, comme vous pouvez l'entendre, en plein vent et en plein soleil aussi. Quand les sinistrés sont arrivés au début ici sur ce terrain vague, tout de suite après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, ils ont commencé par construire des maisons en bâche, en tôle. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, on voit de plus en plus de constructions en dur, à savoir en pierre, en béton. Les gens sont en train de s'accaparer des terrains qui ne leur appartiennent pas.
Ce ne sont pas les hommes politiques qu'il faut changer, mais la mentalité.
Cette habitante de Canaan souhaite nous parler sous couvert d'anonymat.
Nous avons eu plein de présidents différents, mais on ne voit toujours pas de changement. Ce ne sont pas les individus qu'il faut changer, mais les comportements et les manières de penser. Il ne suffit pas de dire, comme on le fait tous, qu'on aime Haïti. Il faut transformer cet amour en acte.
C'était Voyage en Haïti, les citoyens parlent de la crise politique, un grand reportage de Stéphanie Schuller, réalisation Eva Moschinski. Un grand merci à notre ami et collègue Markintov Casimir.
Stéphanie Schuller, bonjour.
Bonjour Laurent et bonjour à tous.
Alors ce qui ressort de votre grand reportage, c'est la méfiance que ressentent ces citoyens haïtiens que vous avez rencontrés à l'égard de leur classe politique.
Oui, c'est tout à fait ça, Laurent. Cette méfiance a été palpable tout au long de notre voyage de la ville de Cap-Haïtien au nord d'Haïti jusqu'à dans les faubourgs de la capitale Port-au-Prince. Elle ne concerne pas seulement le président Michel Martelly et le gouvernement de l'ancien Premier ministre Laurent Lamothe, gouvernement qui a dû, comme vous vous souvenez, démissionner il y a quelques jours en raison de la crise politique et électorale. Non, cette méfiance concerne les élus dans leur ensemble. Les Haïtiens leur reprochent avant tout de faire du pouvoir une affaire personnelle au lieu de songer au développement du pays. Les électeurs ont en effet l'impression d'être trompés par les hommes politiques. Tous nous ont dit que les candidats leur promettaient monts et merveilles au moment des campagnes électorales, mais qu'une fois les scrutins passés, les nouveaux élus disparaissaient à Port-au-Prince et ne montraient que très peu, voire aucun intérêt pour le sort de leurs concitoyens dans leur circonscription. Ils n'ont que du mépris pour nous, alors que c'est nous qui les avons hissés à leur poste, m'a dit par exemple l'un de mes interlocuteurs. C'est avant tout un sentiment d'abandon qui s'exprime à travers ces paroles.
Alors comment expliquer ce sentiment ?
En Haïti, pendant des décennies, tout se concentrait à la capitale. On parlait même de la République de Port-au-Prince. Les provinces, elles, étaient complètement délaissées. Je vous donne un exemple. Lors du séisme du 12 janvier 2010, des habitants de province sont morts dans les décombres de la capitale puisqu'ils avaient été obligés de se rendre à Port-au-Prince pour demander, par exemple, des papiers d'identité. Depuis, les autorités haïtiennes tentent timidement une décentralisation, mais qui n'a pas encore produit beaucoup d'effets. Le manque persistant de projets de développement dans les zones rurales est toujours la cause de l'exode vers la capitale, un exode qui continue et qui est à l'origine de l'apparition de nouveaux bidonvilles.
Pourtant, immédiatement après le séisme, Stéphanie, on a vu cette tendance s'inverser.
Bien sûr, dans les heures et les jours qui ont suivi le tremblement de terre de 2010, 600 000 personnes ont fui la capitale vers des zones rurales. La plupart de ces sinistrés se sont réfugiés chez des membres de leur famille ou chez des amis. Pour les zones rurales, déjà très pauvres, ce déplacement massif de la population citadine relevait d'immenses défis. Mais malgré les difficultés de loger et surtout de nourrir autant de personnes, les sinistrés ont été accueillis et acceptés par la communauté paysanne. C'était là un véritable momentum que les autorités haïtiennes et surtout aussi la communauté internationale auraient dû probablement saisir, mais l'aide s'est avant tout concentrée une fois de plus sur Port-au-Prince. Résultat, les déplacés sont retournés à la capitale. Port-au-Prince compte aujourd'hui même plus d'habitants qu'avant le séisme, avec tous les problèmes et les risques aussi que cela comporte. Pendant ce temps, l'extrême précarité du monde paysan reste inchangée.
Et puis cette dernière question, que demandent aujourd'hui les Haïtiens des provinces ?
La même chose que les habitants de la capitale, la fin des divisions politiciennes et l'union de tous les élus afin de sortir Haïti de la crise institutionnelle et mettre le pays enfin sur la voie du développement.
Ce sera le mot de la fin, Stéphanie Schuller. Merci beaucoup. Votre grand reportage à écouter en intégralité sur RFI.fr. Merci beaucoup.